Monsieur le Président, Madame, Monsieur.
Les procès du siècle.
Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSAM.
My life belonged to that struggle.
Saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen.
Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits.
Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins.
Les procès du siècle, saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM.
Épisode 13, la non-mixité, outil émancipateur ou dérive identitaire, avec Michel Vieviorca, Marie Da Silva et Toufi Kakem à la modération.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus, nombreuses, nombreux, pour assister et participer à ce nouveau procès du siècle du MUSEM consacré aujourd'hui à la non-mixité. Alors, phénomène nouveau et ô combien révélateur de la vie en société d'aujourd'hui, la non-mixité est le fait de créer des espaces réservés à une catégorie de personnes se considérant comme opprimées ou discriminées en excluant la participation des personnes appartenant à d'autres groupes considérés elles comme potentiellement discriminantes ou oppressives. Et le but de cette démarche, bien sûr, c'est de favoriser la prise de parole, la recherche de solutions spécifiques. La non-mixité permettrait ainsi de se retrouver le temps d'une réunion, d'un séminaire ou d'un atelier, des espaces où la pression sociale serait suspendue. Utilisée dans certains courants féministes ou antiracistes ou LGBT, cette pratique fait aussi débat, c'est pour ça qu'on en parle ce soir. En excluant certaines catégories de personnes, avec la non-mixité, est-ce qu'on peut assister à de nouvelles inégalités, de nouvelles discriminations? Et cette pratique ne serait-elle pas la négation de l'universalisme républicain? On connaît le débat, on va en parler. Bref, pour reprendre le titre de la séance, la non-mixité, outil émancipateur ou dérive identitaire. Et j'appelle donc à la barre nos deux grands témoins de ce procès, l'entrepreneuse Marie Da Silva et le sociologue Michel Vieviorca. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Marie Da Silva, après avoir travaillé dans le secteur de la mode, vous avez créé en 2017 votre propre entreprise, une agence de conseil et de stratégie dédiée donc aux femmes racisées. Vous organisez donc des coachings et formations pour aider ces femmes, étudiantes ou travailleuses ou professionnelles, à lutter contre les discriminations racistes et sexistes auxquelles elles font face au quotidien. Votre agence s'appelle Nkali Works, j'espère que je prononce bien, ce qui veut dire en Igbo, donc langue du Nigeria, se réapproprier sa narration. Se réapproprier sa narration. Tout un programme développé donc avec des exemples concrets dans votre série de podcasts, Better Call Marie, et résumé dans l'ouvrage que vous avez fait publier l'année dernière, Survivre au taf, stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées aux éditions Daron. Ça veut dire quoi le coaching professionnel des personnes minorisées?
Ça veut dire qu'on adresse de manière totale, bienveillante, toutes les problématiques que peut rencontrer une personne racisée au travail. C'est ça, des stratégies d'autodéfense pour personnes minorisées.
Et vous prodiguez des conseils, une manière comporter, de se défendre?
Alors, on fait surtout de la stratégie. Donc, je le disais tout à l'heure à Michel, mon métier, c'est d'ourdir des complots. Donc, on complote, on stratégise, on essaie de prévoir ce qui va se passer. Et l'idée, en fait, c'est que la personne qui saisit mon agence puisse sortir de la crise dans laquelle elle est. Et bien évidemment, je travaille en réseau, puisqu'on travaille avec des psychologues, on travaille avec des juristes, des avocats. Et l'idée, c'est d'avoir une stratégie complète pour la personne qui nous saisit.
Est-ce que votre entreprise se porte bien, du coup?
Dans la mesure où la discrimination n'est pas encore inexistante, n'a pas encore été éradiquée, oui.
Sociologue et maître de conférences, Michel Vieviorca, vous essayez d'analyser ce phénomène dans un contexte et une période où les débats s'enflamment très vite. Très officiellement, les réunions non mixtes ont suscité incompréhension et rejet, dénoncé et rejeté aussi bien d'ailleurs par l'extrême droite, la droite, le gouvernement, le Parti socialiste, SOS Racisme, qui y voit le signe que l'antiracisme s'égare et craint que ces réunions non mixtes ne soient les prémices d'une ségrégation raciale. Comment vous avez vécu ce débat, Michel Vivorca ?
Ça m'a pas fait plaisir. C'est pas un débat sympathique parce que c'est difficile de trouver la position juste. Et donc, j'ai eu de la peine à me situer, ou à essayer en tout cas de bien me situer. D'abord, c'est un débat confus. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait eu qu'une question, ça aurait été peut-être un peu plus clair. Donc, au moment où ce débat a surgi, il y a eu au moins deux choses complémentaires. Il y a eu d'un côté le fait que des gens disent « on veut se réunir entre nous », je simplifie, mais il y a eu d'un autre côté l'accusation selon laquelle l'État en France serait raciste.
Alors, pour revenir justement sur le fait politique qui a lancé en quelque sorte ce débat, cette polémique plutôt en France, c'est en 2017, un syndicat, le syndicat Sud Éducation en Seine-Saint-Denis, décide d'organiser des ateliers de formation destinés aux enseignants dont deux étaient destinés à des minorités. Ça devait se faire en non-mixité, comme on dit aujourd'hui, ce qui va déclencher donc une polémique sur les réseaux sociaux avant de devenir un débat politique. Le ministre de l'Éducation de l'époque s'y oppose fermement, on peut le dire. Cela devient donc une affaire d'État quand des associations l'accusent de racisme d'État. Alors, le malaise est toujours là, 4 ans après les faits. Comment vous avez réagi, déjà à l'époque, et maintenant avec le recul, comment vous analysez ce qui s'est passé ?
Quand il y a eu cet événement... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure si j'avais des sentiments un peu délicats ou compliqués à expliciter. Parce que d'un côté, je suis absolument en faveur de la capacité des gens à se réunir avec qui ils veulent pour discuter de quoi ils veulent. S'il n'y a pas ce moment où on discute entre soi, où on prend mieux conscience de ce qui nous rapproche dans notre expérience, si on cesse d'être des atomes isolés, victimes ici d'une discrimination d'un type, là d'une autre discrimination, etc., ça n'est pas la même chose que si on échange sur la base de cette expérience. Que des gens disent « je suis », alors qu'ils disent « je suis racisé » plutôt que de dire « je suis victime de discrimination », c'est pas mon vocabulaire, mais moi ça ne me gêne pas. Qu'ils en discutent entre ceux qui s'estiment être victimes et uniquement entre ceux-là, ça ne me gêne pas. Moi j'ai habité en communauté dans les années 70. Je vais vous raconter quelque chose. Dans ma communauté... C'était formidable. De temps en temps, les femmes, parce qu'il y avait à peu près autant de femmes que d'hommes, disaient « Maintenant, les hommes, vous nous laissez. On veut discuter entre nous. Ben, » ça ne nous amusait pas beaucoup. Enfin, on se sentait un peu exclus. Le problème, c'est ensuite. Les filles de ma communauté, quand elles sortaient de leur réunion, ben, venaient discuter avec nous. C'était pas du tout la guerre des genres, si vous voulez, ou la guerre des sexes. C'était, il y a un moment où elles ressentaient le besoin... de participer à des réunions entre elles. Eh bien, je trouve ça très important, parce que c'est souvent comme ça que se fabriquent les éléments d'une conflictualité qui, elle, sera du côté de l'universel. Ce ne sera pas les femmes contre les hommes, ce sera les femmes contre le patriarcat, ce sera les femmes contre certaines formes de pouvoir, ce sera beaucoup de choses. Mais, et de la même façon, ce n'est pas parce que des gens disent « je suis noir, nous nous réunissons entre nous » pour réfléchir aux discriminations que nous subissons, que ces gens-là vont ensuite sortir de la réunion de gens racisés et qui vont faire la guerre des races. Vous comprenez ? C'est ça. Donc pour moi, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience ? Mais d'un autre côté, je pense qu'à partir du moment où on accusait la France d'être soumise à un racisme d'État... on y allait beaucoup trop fort.
Marie Da Silva, comment vous réagissez ? Ou du moins, pour reposer la même question, qu'est-ce qu'elle a reflété, cette crise, cette polémique autour de cette réunion d'un syndicat, organisée par un syndicat universitaire ?
En fait, moi, cette polémique, pour moi, était un non-sens total. On a perdu tellement de temps. Il y a des personnes qui ont du temps et il y a des personnes pour qui le temps est tout simplement un reste à vivre quand il est attaqué constamment par la discrimination. Apparemment, ce seraient des personnes qui parleraient de racisme qui seraient racistes. Et puis aussi, il y a quelque chose de totalement ridicule concernant cette espèce de pudeur de gazelle comme ça quand on évoque le mot race. On parle de race sociale en fait. Et je pense aussi que c'est une technique aussi de toujours maintenir les débats au ras du sol.
Voilà. Et j'ai remarqué, en préparant ce procès, que votre agence a été ouverte la même année que ce débat, à quelques mois près.
À quelques mois près, puis j'étais quand même un peu insouciant. Je suis arrivée comme ça en disant « Oui, alors voilà, je travaille avec les personnes racisées. » Mais en fait, je n'avais pas conscience vraiment de ce qui se passait à l'époque. C'est après que les gens sont venus me voir en me disant « Mais Marie, t'es sérieuse ? Tu parles de personnes racisées quand même ?» Et c'est là que je me suis intéressée effectivement à ce débat. Mais je vous avoue que quand j'ai lancé mon agence, j'y suis allée comme Don Quichotte, quoi. Allons-y. Concernant cette notion, en tout cas, de racisme d'État, je suis pas en désaccord avec. Moi, pour moi, il existe en fait un racisme d'État, c'est de dire les discriminations telles que le racisme, le sexisme sont des discriminations qui font système, c'est-à-dire qui existent de manière disproportionnée sur un certain groupe d'individus. Par exemple, on a cité la police. Si on parle de racisme d'État, il est très difficile de ne pas parler de la police.
Mais le racisme n'est pas érigé en système, va répondre Michel Vivorca, je suppose.
Il fait les questions et les réponses, c'est merveilleux. Bien sûr, il y a du racisme en France, y compris au sein de l'État. Il suffit de demander à n'importe qui, un peu bronzé, qui doit faire la queue pour obtenir des papiers, s'il y a du racisme ou pas dans les administrations. Il y en a. Il y a du racisme dans la police. Il y en a, etc. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est, est-ce qu'on peut parler de racisme d'État, c'est-à-dire un État qui met en place sciemment, consciemment, des logiques racistes. Je dis pas qu'il y a rien du tout. Bien sûr qu'on a de la peine à assumer, par exemple, le passé, à assumer le code noir, à assumer bien des choses. Il y a du racisme au sein de l'État, dans certains secteurs, dans certains lieux. Mais cela, me semble-t-il, ne justifie pas, c'est là où on diffère, ne justifie pas que l'on parle de racisme d'État, c'est-à-dire d'un système fonctionnant sur un mode nécessairement raciste. Je voudrais revenir sur autre chose qui éclaire beaucoup la discussion qu'on a. C'est juste un mot que Marie a utilisé tout à l'heure, c'est le mot race.
Et en donc France, racisé.
Et racisé. Mais il faut bien voir une chose très importante. En France, jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, quand on disait race, c'était aussitôt la catégorie scientifique des racistes. La race, c'était quelque chose de biologique, et les racistes prétendaient démontrer scientifiquement qu'il existe des races humaines, et que selon que vous appartenez à l'une ou l'autre, vous êtes plus ou moins haut dans une hiérarchie. Et puis, nous vient plutôt du monde anglo-saxon, à travers les sciences sociales, mais pas seulement, l'idée que la race, ça n'est pas une catégorie scientifique ou objective, c'est une catégorie subjective. La race, c'est la façon dont on se représente un groupe humain. C'est une représentation. C'est, disent les sociologues, une construction sociale. Et à partir de là, on peut se reconnaître soi-même dans une race. Si je vous dis « je suis traité en fonction de ma couleur de peau et on me considère comme une race », je peux m'approprier ça. Et ces groupes qui fonctionnent sur le mode de la non-mixité sont des groupes qui s'approprient, dans certains cas en tout cas, une certaine notion de race. Et ça rend le débat un peu plus compliqué, et c'est pour ça que « racisé », ça renvoie tout de suite à cette nouvelle définition de la race. Voilà, je voulais dire que le débat s'éclaire aussi quand on voit comment les mots peuvent avoir des significations qui se transforment ou qui se complexifient dans le temps.
Vous avez commencé à en parler, alors on peut y aller, hein. C'est vrai que cette culture des réunions avec une non-mixité assumée a commencé il y a déjà 50 ans aux États-Unis, où les Noirs se réunissaient entre eux pour parler de leurs problèmes. Et c'est ce qui est arrivé en France. Est-ce que la référence à l'Amérique ou au monde anglo-saxon, c'est quelque chose qui peut trouver sa place en France? Ça aussi, ça a été une question, Marie Da Silva.
C'est une fausse question. C'est-à-dire que, je trouve que c'est très pratique de dire que les réunions non mixtes sont sont une espèce d'héritage américain qu'on essaie de se réapproprier, de capter. Je trouve que c'est quelque chose qui est souvent.
Pour le vocabulaire, il est récupéré quand même.
Je dirais que, en fait, j'ai envie de dire non un petit peu. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette non-mixité dont on parle, elle a toujours existé, puisque de tout temps, on a eu des rapports de force. De tout temps, en fait, les gens... par exemple, si on regarde dans l'histoire de France, on regarde l'histoire du féminisme, on regarde l'histoire du syndicalisme, on regarde aussi l'histoire avec un grand H concernant l'esclavage. Chaque fois que des personnes se sont retrouvées dominées ou oppressées dans l'histoire, elles se sont réunies entre elles pour ériger un rapport de force. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exclusivement américain. Je pense que ça fait partie, la non-mixité a toujours fait partie de l'histoire française avec un grand H.
Et pendant que nous discutons ici à Marseille, bah figurez-vous qu'à Paris a lieu une marche de nuit féministe. Alors, c'est clair, hein, c'est non-mixité choisie et... meuf, trans, PD, green. Comment vous réagissez à cette manifestation, Michel Vivorca, avant de donner la parole à Marie Da Silva?
Bah écoutez, à la fin des années 70, il y avait aussi des marches, des mobilisations avec des femmes. C'est pas la première fois en France. C'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'est pour dire qu'on est là justement, à mon sens, du mauvais côté du problème. On est du bon côté lorsqu'on dit on se réunit entre nous, on réfléchit, etc. Mais s'enfermer pour montrer sa force uniquement entre gens qui sont du même côté du problème, c'est, me semble-t-il, non pas se renforcer, mais s'affaiblir. Alors, ce sont certainement des gens discriminés, mais je pense que c'est une erreur politique, si vous voulez, que de dire « on ne veut que nous ». Je voudrais vous rappeler une chose. Aux États-Unis, à la fin des années 50, est apparu le mouvement pour les droits civiques. Eh bien, ce mouvement, au début... était très large. Il n'y avait pas que des Noirs. Il y avait évidemment des Noirs, ce qui était une chose importante. Il y avait y compris des Juifs qui ont manifesté avec les Noirs américains. Et c'est un mouvement qui a acquis une force considérable. Pourquoi ? Parce que il posait la question noire, bien entendu, mais il le faisait au nom de la société américaine tout entière. Donc le danger, j'essaie d'être clair, le danger, c'est l'enfermement de certains acteurs sur eux-mêmes dans l'action et pas seulement dans la réflexion. Et ça, pour moi, ça affaiblit plutôt que ça renforce un mouvement.
Et c'est le débat de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Da Silva?
Moi, je qualifierais pas ça d'erreur politique. Je dirais que c'est un mode d'action qui trouve toute sa légitimité. La non-mixité, en fait, elle s'est construite sur le fait de ne pas être, dans ces moments de réflexion ou même d'action, de ne pas avoir à subir ou à supporter, en tout cas, le gaze. Le gaze, en fait, ça veut dire le regard. Par exemple, quand on parle de lutte féministe, on parle du gaze patriarcal, on parle du regard patriarcal. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion, en tant que femme, quand je suis dans la société, quand je suis en public, je suis dominée par un regard patriarcal. C'est-à-dire que c'est un regard qui va conditionner mes faits et gestes, qui va me faire agir d'une certaine façon, que je vais considérer en tout cas avec une certaine appréhension. Et cette appréhension, c'est pas une vue de l'esprit. Ça correspond à la réalité de mon vécu. Donc, que les gens veuillent s'organiser pour échapper au gaze raciste, au gaze patriarcal, et dans ce cas précis, au gaze hétérosexuel, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve là, on est dans une démarche qui, pour moi en tout cas, est empouvoirante. Je pense aussi qu'à chaque fois qu'on voit ce type de mobilisation, tout de suite, on a envie de dire « mais vous voulez pas dialoguer, etc. » J'ai l'impression qu'en fait, concernant ces mobilisations, le dialogue est quelque chose d'anachronique. Dans le sens où, quand on veut dialoguer avec n'importe quelle partie, il faut pouvoir se hisser à la hauteur de cette partie, sinon on n'est pas écouté. Et c'est pour ça que j'applaudis et que je suis complètement pour la radicalité de ces actions, parce que elles sont en train de construire un rapport de force qui va permettre l'écoute ou le dialogue. Je pense pas que le dialogue doive intervenir.
Michel Vivorca, qu'est-ce que vous en pensez de
On ne parle que du 6 mars. Il y a un moment donné, ces personnes-là, elles vont aller acheter leur pain, par exemple. Et on sera plus en non-mixité. Donc on parle vraiment que du 6 mars, de 18h30 à 21h. Il y a des gens qui vont marcher ensemble.
La non-mixité, outil émancipateur ou dérive identitaire, le débat continue et j'appelle à la barre notre premier témoin.
Bonsoir.
Bonsoir.
Les prises de parole présentées lors du procès du siècle sont issues d'un travail collectif en atelier, la commission d'enquête. Elle se réunit tous les dimanches, la veille du procès. Hier donc, une douzaine de personnes ont ouvert ensemble le problème de la soirée et débattu et construit des témoignages qui sont au croisement de la fiction et du réel. C'est important.
Bien, bonsoir. Je m'appelle Pascal et hier j'ai participé donc aux commissions d'enquête. Ce soir, devant vous, je serai Elsa, une femme d'une quarantaine d'années. Je m'appelle Elsa. Il y a quelques années, j'ai rencontré un garçon merveilleux, Enzo. Il était gentil, attentionné. Tout allait très vite entre nous. On sortait, on allait au restaurant, on voyageait. La dolce vita. Et puis petit à petit, j'ai eu l'impression que le comportement d'Enzo changeait. D'abord, il a commencé par me faire gentiment des réflexions sur ma silhouette, plus aussi mince qu'avant. Alors j'ai fait un régime, je me suis mise au sport. Puis il trouvait la nourriture pas géniale. Alors j'ai fait des efforts, je passais mes journées dans la cuisine et je lui ai fait tous les petits plats qu'il aimait. Et puis il a commencé à faire des réflexions devant les autres. Ses amis en fait. Car il voulait qu'on rencontre de moins en moins mes connaissances. Je me sentais nulle. Il m'insultait, m'humiliait de plus en plus souvent. Se demandait ce qu'il faisait avec une idiote comme moi. Et moi, je pensais que c'était de ma faute. Il me bousculait parfois, quand je disais un truc qui ne lui plaisait pas, ou que je me plaignais qu'il avait changé. Le lendemain, il revenait avec des fleurs. Et ça recommençait. Je n'en parlais pas. D'ailleurs, à qui ? Je ne voyais plus personne. De toute façon, personne ne m'aurait cru. Enzo était si gentil avec tout le monde, toujours prêt à rendre service. Jusqu'au jour où, pour une vague histoire de télécommande, il m'a bousculé beaucoup plus fort que d'habitude et je suis tombée par terre. Et il est parti faire un tour seul, en claquant la porte. Il n'est revenu que le lendemain. J'ai pleuré de désespoir, de rage, de colère, de honte. Stop. Il faut que tout ça s'arrête. Alors j'ai appelé Tina, mon amie de toujours. Je ne l'avais pas vue depuis si longtemps. Et elle m'a accompagnée à une association d'accueil pour femmes. Là-bas, j'ai rencontré une personne qui m'a écoutée. Nous avons parlé longtemps. J'ai beaucoup pleuré. Elle m'a proposé de rejoindre un groupe de femmes qui avaient vécu les mêmes choses que moi. J'y suis allée pas très convaincue. En fait, au fond de moi, je pensais que tout cela était toujours de ma faute. La première fois, j'ai écouté. J'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir vécu ça. Et au fur et à mesure, en entendant d'autres témoignages, j'ai pris conscience du processus de manipulation. Et j'ai compris qu'en fait, la coupable, ce n'était pas moi. Puis j'ai osé parler, me confier. On s'épaulait, on riait. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver dans ce cadre protecteur. J'ai retrouvé du calme, j'ai repris des forces, la confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai un travail, une vie sans Enzo. Je retourne régulièrement dans ce groupe de femmes pour y animer une séance ou pour soutenir celles qui arrivent. Et puis de temps en temps, comme ce soir, je raconte mon histoire. Merci.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Rapidement, peut-être, des réactions. Marie da Silva, qu'est-ce que ça vous...
En fait, oui, ça pose la... Enfin, c'est un témoignage qui est très émouvant parce qu'il pose la nécessité de se réunir entre personnes qui ont une communauté de destin et d'essayer d'advenir de ce destin. Donc là, en fait, on pose la question de la non-mixité salvatrice, libératrice de la parole, puisque là, j'ai cru comprendre qu'on parlait d'une réunion entre femmes qui avaient subi des violences. Et c'est là que la non-mixité, en fait, trouve tout son sens. C'est-à-dire que je parlais de gaze, de regard, tout à l'heure. Si, par exemple, il y avait eu un homme dans cette assistance, peut-être que ces réunions-là ne se seraient pas passées de la même manière. Puisque directement, ces personnes-là, enfin ces femmes, se seraient retrouvées à se polisser, à édulcorer leurs propos, et puis à vouloir rassurer cette espèce d'homme qui serait au milieu de la salle comme ça. Donc,
et qui pourrait être Michel Vivorca, par
non,
exemple.
Non.
Non, mais je veux dire, Michel Vivorca aurait été complètement sympathisant
Absolument. Mais on n'aurait pas eu besoin, en fait, de connaître cet homme. Et de savoir ce qu'il avait dans la tête et de savoir ses opinions. On aurait tout de suite été saisi par le besoin, en tout cas, d'édulcorer et de rassurer. Quel que soit cet homme, il aurait jeté quelque chose qui n'était pas nécessaire dans cette réunion. Et puis à un moment donné, on aurait entendu, hein, pas tous. Voilà. Et c'est ce qu'on n'a pas envie d'entendre quand on est dans ce type de réunion. La deuxième chose aussi, ce qui est posé en tout cas dans cette réunion entre femmes victimes de violences, c'est que chacune a eu la possibilité en fait de poser son vécu sans restriction, sans se sentir policée. Et ça a eu les effets que Elsa décrit. Et puis, dans un dernier temps, je pense qu'on a tous besoin de l'adresse d'Enzo pour aller lui parler en toute cordialité.
Michel Vivorca, vous voulez dire quelque chose ? On pourrait chouiner aussi.
Écoutez, je n'aurais jamais demandé à participer à une telle réunion.
Déjà.
Évidemment. Et donc, la question ne se pose pas pour des gens comme moi, en tout cas. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe ? Cette femme a intériorisé la honte, en quelque sorte. C'est comme si c'était elle qui était coupable. C'est bien ce que j'ai compris du témoignage. C'est comme si c'était elle qui était coupable de cette situation. Donc, un groupe comme celui-ci, c'est merveilleux. Ça l'aide à comprendre que ce n'est pas elle qui est coupable. Et donc, pour moi, je suis à 100% ravi qu'elle ait eu la chance de pouvoir aller, ou le courage de pouvoir aller dans ce groupe et de continuer à y participer.
Dans ce groupe non mixte.
Oui, bien sûr. La question, c'est, et après ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et après, alors, on peut aller voir Enzo et lui casser la figure, par exemple. On peut, tout simplement, renaître à la vie, peut-être d'une façon, peut-être d'une autre, c'est même pas... On n'a pas besoin de le savoir, aujourd'hui. On peut dire, j'ai retrouvé mon équilibre, j'ai retrouvé une raison de vivre, je me reconstruis. Alors on peut avoir le vocabulaire qu'on veut. Je suis dans un processus de subjectivation, diront certains. Enfin bon. Et puis on peut dire, je transforme tout ça en action collective. Mais c'est pas nécessaire. Et la seule chose que j'ai essayé de dire tout au long de cette soirée jusqu'ici, c'est le moment où l'on passe à l'action collective. Là, il faut transformer les choses. Et là, par contre, eh ben il faut inviter des gens comme moi. Si vous prenez des gens qui partagent la même expérience et qui n'en sortent pas, c'est pour ça qu'il faut savoir accompagner ces gens-là. Et c'est très important que ceux qui ont réussi la transformation puissent aider les autres. Mais si vous ne savez pas, s'il n'y a personne pour, j'ose pas dire coacher devant Marie, mais s'il n'y a personne pour éviter l'enfermement dans la recherche d'une solution à ces problèmes, vous allez fabriquer de l'enfermement. Donc, il faut aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'on va vraiment aider, par des initiatives comme celle-là, des gens à se reconstituer soi-même comme sujets sociaux, comme sujets dans une société.
Marie Da Silva, la non-mixité peut mener à une certaine forme de guérison ou de reconstruction, pour peu qu'on en sorte ensuite, nous dit Michel Vivorca.
Après, je pense qu'on n'a jamais le choix que d'en sortir.
Le risque.
Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui vont participer à la manif de ce soir, demain, ils iront acheter le pain, elles vont sortir dans leur non-mixité. C'est juste que je ne sais pas en fait s'il y a un risque d'enfermement, parce que pour moi, en fait, il est physiquement impossible déjà. Et physiquement impossible parce que en fait ces personnes en fait qui vont faire des réunions en non mixité, elles vont aller travailler, elles vont vaquer à leurs occupations, elles vont faire face à des administrations et ceci et cela. Donc
elles
la non mixité ne peut pas
dans leur communauté, il y a pas de communautarisme ou de risque de communautarisme. Pour employer une fois de plus
après,
le terme officiel.
Honnêtement, je sais même plus ce que ça veut dire le terme communautariste. Est-ce que, par exemple, si j'organise mon anniversaire et qu'on est tous des personnes noires autour de la table, est-ce qu'on peut m'arrêter? Est-ce que ça va? Est-ce que Blanquet va surgir? Je sais pas. Donc, moi, je sais plus de quoi on parle quand on parle de. Honnêtement, je sais plus de quoi on parle quand on parle de communautarisme. Je sais absolument pas de quoi on parle quand on parle de communautariste. Tout ce que je veux dire, c'est que le débat derrière la non-mixité, derrière le wokisme, derrière le communautarisme, montre en tout cas une volonté de contrôle.
La prochaine pièce à conviction est une pièce du musée, et du MUCEM, donc, et de la collection donc, du MUCEM, et c'est un choix d'Amélie Lavin que j'appelle à la barre. Bonsoir Amélie. Amélie, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle corps, apparence, sexualité au MUCEM. Quelle pièce avez-vous choisie pour le procès de ce soir?
Bonsoir. Alors, j'ai choisi cet objet. On va avoir le sentiment peut-être de faire un petit pas de côté par rapport à la conversation que nous avons, mais je pense que vous allez comprendre très vite que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, donc, il s'agit d'une réplique. Assez grossière d'une certaine manière, de la ceinture de banane que Joséphine Baker portait lors du numéro qu'elle a inventé aux Folies Bergères en 1926. C'est une réplique puisqu'en fait, elle est très différente de la ceinture que portait Joséphine Baker, qui évidemment n'était pas composée de bananes en plastique. C'est un objet qui a été fabriqué de toutes pièces, on ne sait pas exactement par qui, pour rentrer dans un musée qui n'a jamais existé, un projet de musée de la chanson. Et on se retrouve avec cet objet, donc bricolé à partir de petites bananes en plastique, sans doute des jouets, et qui m'intéresse parce qu'il raconte, enfin il convoque avec lui, donc évidemment, toute l'histoire complexe de Joséphine Baker, entrée récemment au Panthéon, et tout le fantasme qu'elle véhicule depuis, alors qui bien sûr... sur lequel on a une lecture quand même plus complexe aujourd'hui, mais néanmoins tout le fantasme qu'on projette sur cette jeune fille, le fantasme colonial, raciste de la France des années 20, qui ne peut pas penser une jeune fille noire autrement que comme un modèle d'animalité, de sauvagerie et d'un corps extrêmement sexualisé. Alors, il faut rappeler en fait l'histoire de ce qu'on appelait les vaudevilles noires aux États-Unis, ce modèle de spectacle qui est importé en France. Au départ, donc, ce sont des spectacles de noirs pour les noirs, qui se produisent à Harlem, puisque les artistes noirs ne se produisent pas devant un public blanc. Ensuite, ces spectacles commencent à avoir du succès à Broadway, devant des publics blancs, et c'est ce modèle-là qu'on importe en France en 1925. Alors, si on caricature un tout petit peu, évidemment que c'est anachronique, de parler de mixité ou de non-mixité à cet endroit-là. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que, d'un côté, on a l'invention d'une sorte de non-mixité totale. On fait un spectacle qu'avec des noirs pour satisfaire un public de blancs. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit un truc un peu dégueulasse quand même, c'est-à-dire cette jeune fille de 19 ans qui est mineure. À 19 ans, on est mineur à cette époque-là, c'est 21 ans la majorité, à qui on va demander de danser toute nue avec une ceinture de banane. Je ne l'ai pas dit, mais c'est très clairement, c'est phallique quoi, quand même comme symbole, c'est très clair. Vous l'avez compris tout seul. On lui demande de venir incarner ce fantasme-là devant un public d'hommes blancs. Il y a des femmes dans la salle, mais enfin, majoritairement, voilà, on est dans un système ultra-patriarcal. Alors, il y a ce schéma-là. Et donc, la question qui rejoint les débats que vous avez eus sur quels espaces pour de l'empouvoirment, voilà, il me semble que cet objet-là, il est intéressant, pas pour résoudre le débat, mais au contraire, pour montrer à quel point c'est complexe et comment, dans l'histoire, on peut s'appuyer sur des moments, voilà, sur des repères.
Merci beaucoup, Amélie Lavin. Merci. On continue avec vous et avec vos pièces à conviction, Marie Da Silva. Vous avez choisi deux photographies. Allez, on commence par celle-ci. Qu'est-ce qu'elle représente et pourquoi, enfin,
qu'est-ce qu'elle représente aussi, pourquoi vous l'avez choisie, on devine.
Mais... Bon, déjà, merci Google. En fait, c'est l'image qui est apparue en premier quand j'ai tapé « conseil d'administration lambda ». Moi, je ne dis rien. C'est juste que ce qui est apparu.
Michel Vivorca.
Ah bah, c'est un groupe très homogène.
Hein. Non, mais c'est vrai que quand on revient, effectivement, il y a des non-mixités, effectivement. Moi, je voulais vraiment montrer qu'en fait, il y avait une non-mixité qu'on n'interrogeait pas. Et aussi, revenir sur le résumé du débat où vous disiez, voilà, est-ce que les réunions de non-mixité seraient la porte à de nouvelles discriminations ? On ne peut pas parler de discrimination si on ne parle pas de pouvoir. Quelle non-mixité produit quoi ? Il y a la non-mixité de lutte, la non-mixité de réparation, de soins, de réflexion, puis il y a aussi la non-mixité dominante. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand des hommes blancs qui ont du pouvoir se réunissent dans une pièce ? Bah, je vais prendre un exemple américain, par exemple, toute la débâcle concernant le droit à l'avortement. Il y avait un exemple qui m'avait marqué, c'était un homme politique américain qui prenait la parole pour défendre l'interdiction de l'avortement. Le type ne savait même pas situer l'utérus. Et pourtant, il était à une tribune en train de dire aux femmes qu'ils pouvaient leur refuser leur droit à l'avortement. Et on se rend compte que, concernant ce droit à l'avortement, évidemment qu'il y a des femmes qui sont contre le droit à l'avortement, ça je ne l'exclus pas, mais cette parole, en tout cas dans cette société américaine, elle a été disproportionnellement portée en fait, par des hommes qui n'avaient même pas droit de citer sur la question et qui in fine ne comprennent même pas ce qu'ils défendent. Donc ça m'intéresse de savoir quelle non-mixité produit quoi et pourquoi à chaque fois on évacue de la question cette question du pouvoir. Et ça interroge pour moi la notion en fait de norme. S'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a une norme. Et ça veut dire aussi que la norme produit quelque chose. Puisque en fait, les personnes qui vont être considérées comme différentes vont être considérées comme une espèce d'excroissance. Par exemple, je vais prendre un exemple très clair qui est le validisme. Le validisme, c'est l'oppression des personnes en situation de handicap. Quand on prend le validisme, il y a des exemples qui sont extrêmement clairs. Le métro. Par exemple, aujourd'hui, si j'étais en fauteuil roulant, il me serait extrêmement difficile de prendre le métro à Paris. Pourquoi ? Parce que ou à Marseille aussi. Parce que quand le métro a été conçu, peut-être qu'il n'y avait que des ingénieurs valides autour de la table.
Mais je voudrais revenir sur une chose, parce qu'on est à un moment important de la discussion. Je crois que le problème avec tous ceux qui dénoncent le wokisme, qui dénoncent la cancel culture, la culture de l'annulation, avec tous ceux qui dénoncent l'intersectionnalité, etc., c'est pas que je défends, moi, tout ce qui se passe au nom de l'intersectionnalité, etc. Mais... je vais le dire comme ça, ce sont des gens qui jettent le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'ils prennent des exemples réels. Je ne conteste absolument pas qu'il y a des abus, des bêtises, de l'intolérance, de la violence, etc. Je ne le conteste absolument pas. Mais on en prend on prend de quelques cas bien particuliers de quoi alimenter une théorie générale, et cette théorie générale va consister à dire « ne me parlez pas des mouvements de noirs, ne me parlez pas des mouvements de femmes, ne me parlez pas de MeToo, ne me parlez pas de... hier on aurait dit « touche pas à mon pote », ne me parle pas de Black Lives Matter, etc. » Autrement dit, il y a le refus d'accepter le conflit, la différence, autre chose que ce que l'on croit être soi-même. Et ça, je trouve que c'est très dangereux pour une démocratie. C'est pas qu'on doit accepter toutes les différences telles quelles, c'est pas ça que je dis. Mais si on ne les transforme pas en conflits, si on n'arrive pas à faire en sorte qu'on débatte, même si on n'est pas d'accord...
Mais comment vous faites avec vos amis, Michel Vivorca ?
Ben, ça se passe très bien avec mes amis.
Pas toujours, non ?
Hein ?
Ben, ils sont pas toujours dans vos positions.
Alors,
parce qu'on parle du wokisme.
Il y a des choses qui font que l'amitié doit résister à certaines oppositions idéologiques et politiques. Et il y en a d'autres qui font le contraire. Si un de mes amis est raciste, ça n'est plus mon ami. Si un de mes amis est de droite alors que je suis de gauche, ou de gauche alors que je suis de droite, c'est pas un problème. Autrement dit, l'amitié, il faut savoir aussi comment dirais-je, la situer par rapport à des valeurs essentielles. Si ce ne sont pas des valeurs essentielles qui sont en jeu, moi je n'ai pas de gêne à avoir des amis qui pensent autrement que moi. Heureusement, je pense.
Marita Silva.
J'aimerais juste revenir à cette à chaque fois qu'on parle de la non-mixité, qu'on débat de la non-mixité, on parle du dialogue. Moi, j'invite les gens à ne pas se surestimer. Non, vraiment, j'invite les gens à ne pas se surestimer. J'invite les gens à ne pas penser qu'ils peuvent entendre des choses. J'invite les gens à ne pas penser qu'ils peuvent tout de suite comprendre de quoi il est question. Moi, j'invite vraiment à l'humilité, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la dissonance cognitive. Et que la dissonance cognitive, c'est un mécanisme de défense que va utiliser une personne devant des réalités qu'elle ne peut pas considérer parce qu'elle a peur que son système de croyance soit remis en question. Par exemple, quand je parle de racisme, je choisis les publics dans lesquels je vais parler racisme. Quand je parle de certaines choses, je choisis d'en parler qu'en non-mixité, par exemple. Parce que souvent, en fait, ces débats, on oublie en fait la charge mentale et la charge émotionnelle que représentent ces débats. Parce qu'on débat
c'est
de quoi
finalement. C'est terrible ce que vous dites. C'est un peu à la carte. C'est-à-dire, vous ne dites pas la même chose suivant le public. Par exemple,
c'est grave à la carte. Bah, par exemple, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de parler de manière assez générale. J'ai envie de parler de manière assez générale, et c'est pas dans ce cadre-là que je vais parler de mes expériences de racisme les plus intimes, par exemple.
Pourquoi ?
Bah parce que bon, il y a de la pudeur premièrement, et aussi parce que quand je parle de mes expériences du racisme, j'ai envie d'en parler dans un cadre où toutes les personnes qui seront dans la salle, on va pouvoir se comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, et je le répète, on va être dans une espèce de communauté de destin. Voilà ce qui nous est arrivé. Et parce que j'ai pas envie forcément que les expériences que je vais raconter soient sujets à débat. Parce qu'on débat, on débat finalement de quoi ? On débat de choses complètement fondamentales. C'est-à-dire que la non-mixité, elle rejoint aussi une autre question, c'est au quotidien, quelles humanités sont débattues ? De quelles humanités on débat ? Quelles sont les humanités qui sont soumises à la discrimination ? Moi, j'ai une définition très personnelle. Enfin, oui, je définis la discrimination comme ceci. Je dis quand la difficulté d'exister est posée sur certaines humanités de manière systématique. C'est ça, pour moi, la discrimination. Et pourquoi je choisis de parler de telles choses dans tels espaces ? Parce que j'ai envie de parler aussi de la notion de reste à vivre. Qu'est-ce que je fais de ce qui me reste à vivre ? Et ce reste à vivre, je l'engage de manière différente selon les publics qui sont en face de moi, pour me protéger, évidemment, mais pour aussi ne pas tomber dans la justification de mon humanité et commencer à m'excuser.
Merci beaucoup, Marie Da Silva, et merci, Michel Vivorca. Merci, cher public, et à lundi prochain, j'espère.
Cette séance a été enregistrée le 6 mars 2023 avec la participation de Marie Da Silva, Michel Vieviorca, Amélie Lavin et de Toufik Hakem à la modération.
C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUCEM en collaboration avec Grégoire Ingold.
À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta,
Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon.
En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle.
Réalisation, Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUCEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction.
Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.